Chers amis, chers auditeurs de Radio Présence, nous continuons à feuilleter, ou plus qu'à feuilleter, à lire les livres de Samuel. Nous sommes au premier livre de Samuel et nous sommes à la fin de l'épisode très marquant et même décisif où David, le jeune David, a le dessus sur le géant Goliath et il ramène la tête de ce géant vers Saül. Et c'est là que va venir un épisode qui va nous retenir assez longtemps. Et je ne vous en dis pas plus. Commençons, je lis la fin du chapitre 17e de ce premier livre de Samuel. Lorsque Saül avait vu David sortir à la rencontre du Philistin, il avait demandé au chef de l'armée, qui était Abner, de qui ce garçon est-il le fils, Abner? Et Abner lui avait répondu, par ta vie, au roi, je ne le sais pas. Et le roi lui avait dit, informe-toi, de qui ce jeune homme est-il le fils? Quand David fut de retour après avoir abattu le Philistin, Abner, le général en chef, le retint et le fit venir devant Saül. C'était bien la moindre des choses après ce triomphe. David avait à la main la tête du Philistin. Et Saül lui demanda, mon garçon, de qui es-tu le fils? Et David lui répondit, je suis le fils de ton serviteur Jessé de Bethléem. Bethléem, évidemment, c'est le dernier verset, le dernier mot même du chapitre 17e. Bethléem, c'est l'ascendance de David, quand Jésus sera donc annoncé par l'ange Gabriel à Marie, comme devant s'asseoir sur le trône de David, son père. Donc Bethléem, c'est pas insignifiant. Et Jessé, l'arbre de Jessé, nous en avons parlé déjà en son temps, et c'est justement toute cette ascendance du Seigneur lui-même dans la famille de David et issu de Jessé. Nous, voilà, David est vainqueur, et c'est curieux que Saül ne connaisse pas tout à fait, parce qu'il avait été présenté dans les textes que nous avons lus à Saül, tout de même avant d'aller se proposer pour défier le géant. Mais toujours est-il, il y a différentes strates dans ces différents récits, comme nous le savons bien, nous le constatons ici à la fin du chapitre 17e. Nous commençons le chapitre 18e. Je vous lis les premiers versets qui sont extrêmement touchants et qui vont nous amener à faire quelques commentaires. Or, dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha de toute son âme à David et il l'aima comme lui-même. Ce jour-là, Saül retint David et ne lui permit pas de retourner chez son père. Et Jonathan conclut une alliance avec David, car il l'aimait comme lui-même. Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait et le donna à David, ainsi que ses vêtements, et même son épée, son arc et son ceinturon. Et dans ses expéditions, David réussissait partout où l'envoyait Saül, et Saül le mit à la tête des hommes de guerre, était bien vu de tout le peuple et même des serviteurs de Saül. Donc ce texte est assez impressionnant, et donc va nous faire réfléchir un moment ensemble, chers amis, à propos de ce que c'est que l'amour et ce que c'est que l'amitié. Car en effet, dès la première rencontre, nous venons de l'entendre, c'est début du chapitre 18e du premier livre de Samuel, dès que David finit par parler à Saül, Jonathan s'attacha de toute son âme à David et l'aima comme lui-même. Il y a une sorte de coup de foudre, enfin quelque chose s'est passé entre les deux hommes. Et donc il y a un attachement véritable et qui se manifeste. Et avant de continuer à faire un certain nombre de commentaires sur cette réalité qui nous intéresse tous, de près ou de loin, et je voudrais citer un texte qui est bien connu de tous, je pense, un texte de Montaigne à propos de son amie la Boétie. dans ses essais. C'est un des premiers livres de la Pléiade que j'ai acquis quand j'étais jeune collégien ou étudiant, les essais de Montaigne. Alors, il essaie, quand on lui demande pourquoi il avait cet attachement à ce monsieur, ce monsieur de sa connaissance et avec qui il travaillait, et qui s'appelait La Boétie, et qu'on lui demandait pourquoi est-ce qu'il était attaché à lui, pourquoi est-ce qu'il l'aimait. Et il écrit cette réponse assez étonnante que nous connaissons bien, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il y a là, il y a, je continue à citer Montaigne, il y a au-delà de tout mon discours et de ce que j'en puis dire particulièrement, je ne sais quelle force inexplicable et fatale, médiatrice de cette union. Nous nous cherchions avant que de nous être vus. Et par des rapports que nous avions l'un de l'autre, parce qu'on entendait dire de l'un et de l'autre, et qui faisaient en notre affection plus d'efforts que ne porte la raison des rapports. Et je crois, par quelque ordonnance du ciel, nous nous embrassions par nos noms. Et à notre première rencontre, et qui fut par hasard en une grande fête, une grande fête, et en compagnie de ville, nous nous trouvions et nous prîmes et nous engagions l'un à l'autre et nous obligions entre nous de telle sorte que rien dès lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre. Ce n'est pas une spéciale considération, ni deux, ni trois, ni quatre, ni mille, c'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena à se prolonger et à perdre dans la sienne, que, ayant saisi toute sa volonté, l'amena à se plonger et se perdre en la mienne, d'une fin, d'une concurrence pareille. Je dis perdre à la vérité, ne nous réservant rien qui ne nous fût propre, et ni qui fût sien ou mien. Voilà ce grand texte de Montaigne. Frères et sœurs, nous y reviendrons en la prochaine fois sur cette réalité de l'amitié et comment elle peut naître ou se développer.